Ce matin, bien, on est dans une série. Vous avez entendu deux prédications thématiques dans les deux dernières semaines sur le partage de notre foi, sur le partage ensuite de notre foi dans notre foyer. Et aujourd'hui, on parle de mariage. Et on est dans une série de trois messages qui dit « Nous sommes évangéliques ». C'est quoi le rapport du mariage avec les deux autres thèmes? Y a-t-il un lien? Y en a-t-il pas? Il y a un lien très, très fort avec l'Évangile. C'est tout l'Évangile. Et j'aimerais vous le montrer ce matin, mais vous le faire d'une manière très différente, moins orthodoxe. On aime ça faire des affaires un peu différentes. C'est bon de faire des affaires différentes. Et on peut parler du mariage de tellement de différentes manières. Comment on peut parler de la sexualité, on peut parler de la communication, on peut s'encourager de toutes sortes de manières, travailler sur la dynamique, c'est quoi vraiment la soumission, le respect, puis l'amour, l'égalité dans le couple. Il y a tellement d'angles à adresser et j'aimerais adresser aucune de ces angles-là ce matin. C'est bon? C'est clair en partant? Je vais le prendre complètement d'une manière mondaine ce matin. Alors c'est le temps de sortir si vous voulez pas entendre un message mondain. On va vous excuser tout de suite, autant vous le dire. J'ai fait la lecture d'un livre très intéressant, écrit par une Québécoise en début d'année. Et j'aimerais vous partager beaucoup de choses, mais d'une perspective que le monde aujourd'hui, avec les arguments que les gens ont dans notre société avec laquelle on vit, où est-ce qu'on a perdu la valeur du mariage, j'aimerais l'adresser de cette façon-là ce matin. Et regarder aussi comment c'est harmonieux, finalement, avec les Écritures, et c'est quoi le lien avec l'Évangile et le mariage, exactement, et la transmission de la foi. C'est quoi le lien? Aujourd'hui, pourquoi c'est tellement important le mariage et qu'on l'a mis dans un thème comme « Nous sommes évangéliques ». Trois messages, puis le troisième, c'est le mariage. Et vous allez voir d'autres thèmes comme ça venir à travers l'année, puisqu'on a décidé cette année d'adresser les prédications un peu différemment. On fait une série dans le livre de Galates sur cette liberté chrétienne que Dieu nous donne et qui couvre l'Évangile, évidemment, et vive l'Évangile. Mais en même temps, on va entrecouper à toutes les deux à quatre messages dans Galates des thèmes. Des séries de trois thèmes, et il y en a quatre à travers l'année. Et je vous les nomme d'avance pour que vous sachiez ce qui s'en vient. Mais après le chapitre 3 et 4, on va avoir le thème sur marcher avec Dieu. Notre relation avec Dieu, on va parler de foi, on va parler d'adoration, de prière, de jeûne, de service les uns envers les autres. De serviteurs les uns envers les autres. On va avoir une série ensuite sur, après qu'on va passer les fruits de l'esprit, dans le chapitre 5, on va faire deux prédications là. On va avoir un thème sur des gens de caractère. C'est quoi des gens de caractère? Pour compléter les fruits de l'esprit, avec des thèmes comme la pureté morale, le caractère moral. On va parler du caractère d'abondance, être honnête et généreux. On va parler du caractère de serviteur, l'humilité. Ensuite, on a une dernière série après avoir fait le chapitre 6 qui parle de service et de pouvoir servir dans la liberté, sans être obligé, sans être en train de faire des accomplissements pour avoir plus de grâce de Dieu, mais dans toute liberté. Et là, on va toucher le thème « Soyons aimants ». Et là, il y a un jeu de mots ici. Soyons aimants. Vous comprenez le jeu de mots? Aimants? Attirants et en même temps? Aimants envers les autres. Il y en a qui... Et là, on va parler de prendre soin. On va parler d'entraide pour les nécessités. On va parler d'accueillir les gens, de les amener, l'hospitalité. On va parler de la vie de petits groupes. Alors, tous des thèmes qu'on espère vont être complémentaires à l'étude du livre de Galates, et qui sont vraiment dans le concret de la vie de l'Église à travers l'année. Exposition des Écritures et en même temps des thèmes qui, on espère, vont être complémentaires, et que le Seigneur puisse, dans notre nouvelle adaptation d'Église à travers cette année, puisse nous bénir à travers ça. Alors, juste pour vous donner un portrait de ce qui s'en vient. Et ce matin, j'ai une déclaration à vous faire, et je vais la répéter à la fin aussi. Je vous dis ceci, travailler à notre couple, c'est de travailler à donner le goût de la foi à nos enfants. Travailler à notre couple, c'est de travailler à partager la foi à notre entourage. Travailler à notre couple, c'est de travailler à laisser Jésus-Christ vivre en nous, c'est-à-dire la vraie vie chrétienne. Et j'aimerais que vous vous rappeliez de ces trois choses-là, je vais les répéter, même si ça va être une prédication assez moderne. Okay? Vous allez comprendre de ce que je veux dire. Ce matin, je pars avec le principe que je vous ne dirai pas, pour la plupart, quelque chose de nouveau. Souvent, on a besoin de quelque chose de nouveau. Pas de nouvelle révélation. Si vous pensez avoir un nouveau truc pour réussir votre mariage, J'espère vous encourager ce matin. J'espère vous convaincre davantage. J'espère vous aider à avoir des raisons pourquoi comprendre les arguments de notre société qui sont contre le mariage et pourquoi ils sont faux. J'espère réélever la fierté d'être marié, la joie d'être marié, la persévérance du mariage chez chaque personne qui va écouter aujourd'hui, tout en comprenant les arguments qui nous entourent et que le Seigneur... Et peut-être ce matin, vous vous dites, « Ouais, mais moi, je ne suis pas marié. » C'est correct? J'espère vous aider à vous préparer à vous marier un jour. Que vous soyez en entraînement. Il y en a qui se disent, « Ah, c'est nous autres, ça, hein? » Il y en a d'autres qui sont désillusionnés du mariage et qui vont peut-être lutter ici avec la culpabilité parce que vous avez vécu ou vous vivez un échec matrimonial. Et ce matin, mes propos ne se veulent absolument pas dans ce sens-là, d'aucun jugement à ce niveau-là, zéro. Si vous sentez la culpabilité, sachez que ce n'est pas l'intention. Et que la catégorie des gens qui ont vécu un échec matrimonial ne sont pas une subcatégorie dans le royaume de Dieu. Il y a le royaume pour ceux qui ont resté mariés, puis le royaume pour ceux qui... ça ne marchait pas. Ça ne sera pas comme ça. OK? Si quelqu'un vous donne cette impression-là, ce n'est pas comme ça dans le cœur de Christ. Ce n'est pas un échec matrimonial qui est pire qu'un meurtre. Même si socialement, on s'entend que ce n'est pas la vision du monde. Un échec comprend des péchés, tout comme aussi un meurtre est un péché, tout comme un mensonge est un péché. Et l'échec matrimonial n'est pas un plus grand péché que l'un de ceux-ci. Et ne fait pas de subcatégorie dans l'Église de Christ. Et nous sommes en même aussi, comme équipe pastorale, d'être sensibles à ce sujet, sachant fort bien que beaucoup sont dans cette situation-là, et ce n'est pas leur désir. Et que ça se fait à deux, une vie de couple qui se réussit. Ça ne se fait pas tout seul. Et donc, soyez assurés qu'il n'y a aucun jugement à ce niveau-là, dans tous les propos qui seront dits, et que je vais citer souvent de... la demoiselle qui a écrit ce livre, cette femme qui a écrit ce livre. Les statistiques nous montrent très bien qu'on ne s'est pas amélioré avec le temps face au mariage au Québec. Le temps n'arrange pas les choses. Et c'est évident. Et le principe de tester la marchandise avant le mariage ne s'est pas avéré une solution concrète de réussite matrimoniale. J'ose le dire. Et on ne parle même pas ici, en plus, d'essayer la marchandise avant de se marier pour vivre ensemble en plus, même pas au niveau de la sexualité. Vivre ensemble ne s'est pas avéré un critère et un facteur de succès pour le mariage non plus. Fait prouvé. Regardez autour de vous, le concubinage n'a pas amélioré les mariages qui en sont suivis. Pas du tout. Bouillie pour les chats, mensonges, histoire de grand-mère et aucun mépris envers les grand-mères. Faux! Allons pas être bernés par des niaiseries qui sont envoyées par la tête. L'Union libre n'a rien réglé au Québec de notre réussite familiale et de couple. Faux. Avant-gardiste, le Québec? Est-ce à son avantage? Pas du tout. On s'est perdu, on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus qui sont nos valeurs, quelles sont nos valeurs, et donc on se lance d'un bord et d'autre. Et donc, ça m'a amené à une lecture intéressante. Il y a quelques années, vous rappellerez que Pasteur Benoît avait amené un livre sur la scène, sur la soumission à une femme qui parlait de la femme soumise. Et une femme qui n'était pas de croyance chrétienne quelconque. Bien, c'est le cas de ce livre, une femme qui n'amène aucun argument religieux, qui ne donne pas d'une perspective religieuse. Je pense à dire qu'on est d'une religion ici, je vais parler du contexte social dans lequel on est. Et qui a écrit ce livre, elle s'appelle Olivia Levy. C'est une Québécoise qui a marié un Français. Et qui est mariée, elle a le même âge que moi, elle a 36 ans tous les deux. Et elle a écrit ce livre en début d'année, « Oui, je le veux, le mariage d'amour, une affaire de raison. » Préface par Pierre Brassard. Un de ses meilleurs amis, qui dit des éloges sur qu'est-ce qu'elle a partagé. Elle est en croisade pour le mariage, comme Québécoise. On en trouve peu, alors il faut la lire. Hein? Ils ne sont pas très populaires, les femmes de 36 ans qui sont mariées et qui font une croisade pour encourager les Québécois à reconsidérer les attaques au mariage et de montrer qu'elles sont fausses, de donner de l'espoir, de dire les vraies choses. Très intéressant, une lecture drôle, convaincante et que j'ai beaucoup appréciée au mois de mai. j'ai fait cette lecture-là. Tout le temps, je dis, ah, je ris, écoute ça, c'est bon. Et j'aimerais citer beaucoup de choses qu'elle apporte, des arguments sur le mariage d'une femme qui n'y a aucune perspective religieuse dans son approche, strictement statistique, strictement sur les faits, strictement sur les ressentis de la population québécoise. Alors, je vous les partage ce matin. Je ne pourrais pas partager, évidemment, toute chose qu'il y a dans ce livre, mais s'il y en a qui veulent l'emprunter ou lire, c'est très intéressant comme lecture pour notre contexte social, pour tout ce monde qui ne croit plus dans le mariage. Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Évidemment, je ne parlerai pas de sexualité, mais chose intéressante, elle mentionne quand même que c'est faux! Que la vie sexuelle chez ceux qui ne sont pas mariés est plus intéressante et plus pertinente et plus le fun ou whatever. Faux. Mensonge. Elle prend un de ces chapitres pour parler de ça, qu'en fait, la vie de couple est plus favorable à une bonne sexualité. Une sexualité plus satisfaisante et durable. C'est écrit. Et c'est vrai. Je le crois, je le vis. Et je suis partisan de la sexualité dans le mariage, parce que c'est biblique, et c'est là qu'on apprend à se connaître et vivre quelque chose d'honorable à Dieu, dans lequel on est satisfait, parce qu'on se connaît, au lieu de passer d'une personne à l'autre, puis de vivre toutes sortes d'affaires tout croche, etc. Et la réalité, c'est statistiquement, quand les questions sont posées, la réalité, c'est que c'est faux, même s'il y en a, évidemment, des vieux mariés, puis que la sexualité du couple est plate. Mais dans la réalité, pour la majorité, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ce n'est pas mieux, du moins, chez ceux qui ne sont pas mariés en union libre. Intéressant. Ensuite, autre chose dans les mythes, ça en était un des mythes. Mais elle mentionne de plus, elle adresse le sujet de la fidélité, qui est primordiale pour la durée et pour le bon entente du couple. Mais je ne vais pas adresser cet aspect-là, même si elle le souligne avec beaucoup de force. Autre argument aussi pour le mariage qu'elle souligne, les homosexuels en font la promotion. C'est drôle pour une société de gens qui ne veulent pas se marier, mais en tout cas, les homosexuels, eux autres, veulent se marier. C'est assez intéressant, quand même. C'est peut-être que le mariage signifie aussi plus haut niveau d'engagement, plus de sérieux, plus de risques, que ce n'est pas juste un papier, mais ça signifie quelque chose moralement, devant les gens quand tu es marié. Les homosexuels en font la promotion. Donne l'exemple aux hétérosexuels au Québec. Intéressant. Quelques chiffres que j'ai sortis pour vous, Statistique Canada, que j'ai pris dans son livre, et j'en ai mis quelques-uns sur PowerPoint. Alors, ils sont prêts? Excellent. Nous sommes depuis peu une minorité, les gens mariés. Bientôt, il va y avoir un exode. Les gens qui voudront vivre pas mariés vont venir au Québec. Ce ne sera plus des réfugiés politiques, ce sera des réfugiés de mariage. Hein? On est au Québec en minorité depuis peu. Et évidemment, la cause du basculement des chiffres, ben, c'est notre faute, le Québec. Autre fait intéressant, prochaine diapo. L'Union libre, le Québec est le champion du monde. On est sur le bord de rentrer des livres Guinness de Record. Le Québec, en 2006, et là, ça a augmenté depuis ce temps-là, évidemment, on ne s'améliore pas avec le temps, on parle de 34,6% en union libre. Toute catégorie, tout âge confondu, évidemment, quand on parle de différents groupes d'âge, ça diminue beaucoup avec les gens qui sont de 60-65 ans. Ça tombe là, à des proportions vraiment minimes, en bas de 10%. Mais quand on parle de jeunes là, en bas de 25 ans, regardez les statistiques, justement, 25 ans, plus de 80%. Et chez les 35 à 39 ans. 10%, par contre, chez les 60 à 69 ans. Et pourtant, on retrouve des gens, 60 ans de mariage, ça a 80 ans, ça vient de un des deux est mort, ça se retrouve veuve, pouf, 82 ans en concubinage. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans l'image ici? Mais ça, il y a quelque chose... Ça marche pas, hein? 60 ans que le même homme, puis on s'en vire de bord à 82 ans, c'est cool, c'est à la mode, puis là, on se ramasse avec un petit Joe Blow en union libre, là, puis finalement, Joe Blow, il meurt aussi, là, parce qu'ils sont rendus assez âgés. Puis là, on a essayé un autre, c'est pathétique, là. On a-tu dégradé un peu, là? Puis ça n'a pas favorisé l'entente, puis la réussite, puis la joie, là. Au contraire, c'en est vraiment triste. Dans le reste du Canada, regardez la différence. On parle de 13,4%. Alors, on fait monter la balance, pas à peu près, le 25% du Canada qui vit au Québec. Et pourtant, les champions auparavant, c'était la Suède, la Finlande qui étaient l'avant-garde et qui sont rendus à 25 et 24%. Regardez le progrès là, de 81 en 25 ans jusqu'à 2006. Et là, vous avez l'information sur le livre. Oui, je le veux. D'autres statistiques, prochaine diapo. Taux de nuptialité, c'est-à-dire combien de mariages il y a sur 1000 habitants par année. On parlait de 10,7. Il y a de cela 70 années. Et regardez la descente progressive en 72-8. On est à 3 en 92, 2,9 en 2009. C'est la dégringolade totale. Et pourtant, on ne voit pas de progression au niveau moralité. On ne voit pas de progression au niveau de satisfaction de la vie, de la joie. Si au moins ça apportait plus de joie, plus d'épanouissement, plus de réussite économique. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas descendu le taux de pauvreté non plus. Ensuite, prochaine statistique. Les indices synthétiques de nuptialité des célibataires. Qu'est-ce que ça veut dire en québécois normal, là? C'est les termes utilisés par Statistique Canada pour parler de le nombre de personnes sur 1000 personnes qui, entre 0 jusqu'à l'âge de 50 ans, vont se marier. Okay? Combien de personnes, rendues à l'âge de 50 ans, vont se marier sur 1000 personnes? Okay? Et on parle au Québec, chez les femmes, sur 1000 personnes, il va y avoir 28% des femmes qui vont se marier, 286, et 311 sur une vie, là. Donc, ils peuvent se marier à 20 ans, comme ils peuvent se marier à 50 ans, ils sont inclus là-dedans, qui vont vivre l'expérience d'un mariage, une fois dans leur vie. Au Canada, regardez la différence, 444 et 470 pour les femmes. Et là, vous voyez la France, 500, Suède, 500 et plus, l'Italie, chez les femmes, 595. On est vraiment, vraiment là, déphasé avec le monde sur le mariage. Mais pas à peu près. Elle termine en disant ceci. Je dis, et là, il y avait des statistiques sur les mariages mixtes qui ont augmenté et qui comptent évidemment pour aider parce que les gens qui viennent de d'autres nationalités souvent ont des valeurs plus fortes sur le mariage. Alors, beaucoup de mariages mixtes maintenant et qui ont augmenté de beaucoup. Et ça contribue, par exemple, à maintenir un peu de mariage. Puisque ça peut être plus fort, entre autres chez les Français et d'autres nationalités. Elle termine en disant, je me dis que les Québécois ont fait de la province le paradis des non-engagements. Bientôt, nous accueillerons des réfugiés matrimoniaux. Des gens du monde entier souhaiteront s'installer ici pour la seule raison d'être non-engagés. C'est elle qui le dit. C'est Olivia Lévy qui nous dit cela. Définition du mariage. On peut fermer le PowerPoint. Le mariage, et je prends sa définition et après on va regarder aux Écritures. Le mariage, c'est l'action de se lier par une promesse pour la vie entre un homme et une femme. Et là, c'est moi qui l'ai mis ça. Le mariage, comme le partage, est un mot qui risque de disparaître du dictionnaire. Partager les joies et les peines de tous les jours. Mon mari, c'est ma famille, c'est mon sang. C'est, et là, vice-versa, évidemment, là. C'est une partie de moi. Je ne peux plus m'en passer. Là, ça, c'est elle. Il occupe toutes mes pensées. Je suis plus calme et réfléchi depuis que je le connais. C'est ce qu'elle dit. C'est un exploit, elle dit. Et lui a développé sa créativité et son sens de l'humour depuis qu'il est à mes côtés. Nos différences nous complémentent. Voilà comment elle définit le mariage, après avoir donné une courte définition d'engagement. Regardez avec moi Genèse, chapitre 2. Évidemment, ce n'est pas l'être humain qui a inventé le mariage. Nous avons été créés. Et la Bible nous explique l'origine de cet engagement entre un homme et une femme pour la vie. Un homme et une femme qui ont été physiologiquement faits de telle manière à être ensemble et avoir des enfants. Et c'est le seul mariage que la Bible, et pour lequel cette Église se tient, et que la Bible enseigne la parole de Dieu, le livre, le manuel d'instruction sur comment l'homme devrait vivre puisqu'il en est son créateur. Et elle dit ceci au chapitre 2, verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera Isha, femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il y a une séparation qui se fait de l'ancien foyer pour former un nouveau foyer et s'attachera à sa femme. Et donc, ce n'est plus les Lapierre, ce n'est plus les Joseph, c'est une combinaison Joseph-Lapierre, nouvelle mode, parce que c'est un nouveau foyer. S'attacher à sa femme. Donc, il y a clairement ici un effort, il y a quelque chose de s'attacher, puisqu'on est invité aussi à s'attacher à Dieu. Même mot. Ils deviendront une seule chair. Sans perdre nos individualités, il y a une unité qui se fait dans le mariage, pour que ça réussisse, évidemment, entre ces deux êtres qui, en même temps, d'être deux, ils sont un. Et tout à coup, dans cette relation-là, il se passe quelque chose de spécial. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils en avaient point honte. La nudité et tout ce qu'elle englobe était tout à coup une place où il n'y a aucune honte à y avoir. Quelque chose de naturel, de beau, d'honorable à Dieu, que Dieu a créé, et pas juste pour la procréation. Sinon, il n'y aurait pas des parties le fun. Donc, s'il y a des parties le fun, c'est pour avoir du plaisir aussi ensemble. Vous voyez? Parce qu'il y a une raison pour tous les morceaux. Ça va? Donc, il y a une place pour laquelle Dieu l'a créé pour le plaisir dans le couple. Et c'est honorable à Dieu. Ça nous unit ensemble. Ça fait partie de notre communication. Et c'est naturel. C'est beau entre un homme et une femme qui sont engagés l'un envers l'autre pour la vie, dans les liens du mariage, qui aujourd'hui sont mis dans des cadres administratifs, oui, mais qui ne sont pas moins les mêmes devant les hommes et devant Dieu. Un engagement pour la vie, un homme, une femme, dans lequel Dieu dit, c'est là la meilleure chose pour l'homme et la femme que j'ai créée, ce qui est le meilleur scénario pour leur joie et leur satisfaction, le meilleur scénario pour la reproduction d'être vivant, d'un milieu équilibré et populer la terre, le mariage. C'est Dieu qui l'a inventé, pas nous. Nous, on le brise. Mais Dieu l'a inventé pour le bien, pour la bénédiction de l'être humain. Et je veux le rappeler ce matin. 4 fois, ces versets sont cités dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas rien. Que ce passage, chapitre 2, dans un monde parfait, qui décrit le mariage entre un homme et une femme pour la vie, est cité 4 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient appuyer le mariage, autant dans sa présence dans un mariage, que par son enseignement très sérieux dans un monde qui avait été quand même libertiné pas mal à son époque, parce qu'on pouvait divorcer pour toutes sortes de causes, on en avait mis des raisons. Et le Seigneur vient réaffirmer le sérieux du mariage et cite ces paroles qui sont l'origine de toute chose au niveau du mariage. 2 fois. Paul en parle de 2 manières différentes. Paul en parle dans les Éphésiens pour parler de la valeur du mariage et du rôle de chacun dans le mariage, de l'homme et de la femme. Et je vais le dire, d'amour et de soumission. Et Jésus-Christ est celui montre l'exemple de ce que c'est l'amour et la soumission parfaitement. Jésus-Christ est le modèle de soumission et Jésus-Christ est le modèle de leadership aimant dans les 2 cas, pour l'homme et pour la femme. Rien de dégradant dans l'un ou dans l'autre, dans le sacrifice qui est demandé, volontaire d'aimer, dans le sacrifice volontaire qui est demandé de soumission, de respect de la part de la femme, dans une relation d'égalité, que Paul nous dit, vis-à-vis, avec des rôles différents, parce qu'on a été créés différents, physionomies différentes, des forces différentes, et pour la vie. Et Jésus-Christ est celui qui exemplifie dans les 2 cas le rôle. Jésus-Christ, le Fils soumis qui a été jusqu'à la mort. Jésus-Christ, le leader parfait qui s'est sacrifié totalement. Jésus-Christ est le modèle pour les 2. Un Fils parfait dans sa soumission avec son Père. Pourtant, il n'était pas moindre que le Père, mais un rôle différent. Paul le souligne là, et l'autre endroit, c'est dans 1 Corinthiens. On est moins habitué à cette citation-là, dans 1 Corinthiens chapitre 6, où ce que Paul parle de la relation entre un homme et une prostituée, et qu'ils deviennent un, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans la sexualité, que tu ne peux pas juste coucher à droite et à gauche, et que ça ne laisse pas rien. Faux, mensonge. Ça laisse quelque chose. Parce que la sexualité entre un homme et une femme unit 2 personnes, qu'ils soient mariés ou pas. Il se passe quelque chose là, qui unit 2 personnes dans la chair et qui impacte la vie de l'un et de l'autre. Autant physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Et Paul le dit, et il dit, la source de tout ça se trouve dans Genèse chapitre 2, qui enseigne les bases de cette vérité. Et il le cite. Et donc, ces versets-là qu'on vient de lire sont la base et sont vraiment importants. Je ne vous ai rien lu de nouveau, mais j'aimerais vous rappeler que c'est là. Et que c'est Jésus, c'est Dieu qui en est le Créateur. Et avant d'aller plus loin, bien puisqu'on a lu les Écritures aussi, j'aimerais prier que le Seigneur puisse bénir ce temps ensemble. Prions. Père Céleste, ce matin, il est dans mon cœur d'élever l'enseignement de notre Créateur, d'élever l'enseignement de la parole de Dieu et de le faire par une femme qui a compris des choses et qui encourage le mariage avec des arguments vraiment du monde qui nous entoure. Et Seigneur, puisse ces choses nous encourager et puisse, Seigneur, ce message soit centré sur la personne de Jésus-Christ face à l'importance du mariage. Que, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de ceux et celles qui écoutent dans cette salle et qui écoutent à travers l'Internet, et que vraiment l'union entre un homme et une femme soit élevée, qu'il soit chéri, qu'il soit considéré comme précieux et qu'il soit considéré comme un fondement de notre société et honorable à Dieu et digne de tous nos efforts. Et que cette Église, Seigneur, soit un rempart qui honore les liens du mariage dans notre ville, qui prend soin des familles, des mariages, qui encourage, qui fortifie, qui ne juge pas, qui ne met pas des poids, non, qui libère, qui prie, qui fait tout ce qu'il faut pour faire réussir les mariages, sachant que si le diable s'y attaque, c'est qu'il y a quelque chose de précieux là. Il y a un fondement, un outil divin lié à l'Évangile qui est dans le mariage, Seigneur, qui est attaqué. Seigneur, aide-nous à le comprendre, à le chérir et à le partager. Et que ça fasse une profonde impression dans nos cœurs. Je te le prie ce matin. Remplis-moi de ton esprit pour le bien de ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Madame Bombardier dit des choses bien intéressantes dans son beau français. Et elle dit ceci, interviewée par Madame Olivia Levy, elle dit, « Les Québécois ont des carences affectives. Ils ont tous rompu en si peu de temps. Il y a quelque chose de profond et de brisé chez beaucoup de Québécois. » Intéressant, en parlant du mariage ici, interviewé par elle. Et c'est la confiance. Elle constate que la génération des 30-45 ans a aussi peur. L'égoïsme et le refus de faire des compromis sont autant de raisons qui ne mènent pas au mariage. Et en passant, elle ne se décrit pas comme exemplaire à tout égard à ce niveau-là. Elle est mariée pour la quatrième fois, si je ne me trompe pas. Mais on en fait quand même la promotion. Elle y croit au moins, en tout cas. Elle recommande, mais elle y croit. T'sais. Ce qui est très triste, elle dit, c'est que ces gens d'une soixantaine d'années qui se sont mariés depuis leur jeunesse pour ne pas avoir l'air dépassé et arriéré, disent « mon chum, ma blonde ». Ça fait un peu anachronisme chez une personne de 65 ans. Cela évoque très bien le malaise entre les hommes et les femmes et l'état d'esprit dans lequel nous vivons. Le mariage est perçu comme une contrainte, comme quelque chose d'étouffant, alors que c'est tout le contraire. Parole de Mme Bombardier. C'est pas la Bible ici, non. Je vais le dire. Et Mme Olivia Levy fait ressortir ce malaise-là, mon mari. Elle dit ceci fort intéressant, et je vous le cite. « J'adore dire mon mari. » C'est elle qui le dit, c'est pas moi qui l'aurais dit de même. « Ça m'a pris un peu de temps avant que je m'y habitue, mais j'ai beaucoup pratiqué la prononciation de ces mots en articulant et en appuyant bien sur le pronom possessif. » Au début, j'osais pas trop. C'est normal, me suis-je dit, puisque l'expression « mon mari » a un peu disparu dans la langue courante. Dommage, parce que je ressens une petite jouissance chaque fois que je dis « je vous présente mon mari ». Ça m'excite même. Aujourd'hui, on dit « mon chum, ma blonde, mon conjoint, aïe, j'enfle la vue d'œil. Je suis allergique aux mots. » Le lu l'aide de la langue française. J'ai du mal à transcrire ça. Conjointé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon conjoint? C'est administratif, elle dit. On dirait qu'on parle de ses impôts ou de ses taxes à payer quand on dit « mon conjoint ». Mon mari, c'est presque kirsch, c'est vintage. C'est côté des années 50 qui me plaît beaucoup. Ça sonne vrai et durable, du sérieux, je vous le dis, c'est du béton. J'ai un mari et j'en suis fier. Paradoxalement, pour les gens mariés, dans des contextes plus formels, ces mots démontrent le sérieux de la relation et de l'engagement. Ce qui est encore plus fou, c'est que certains conjoints de fait avouent utiliser mari, confession ici, des conjoints de fait qui utilisent le mot mari et femme, et je l'ai entendu personnellement, parce que ces mots évoquent l'engagement. Ah ben, c'est pas beau ça. Parce que chum et blonde, ça signifie pas l'engagement. Ça fait honnêtement ado. Et ça, c'est ma parenthèse à moi. Chose intéressante, vous savez, au Chili, ils sont en train de penser à récompenser les gens mariés. Hein? Intéressant. C'est juste, je trouve qu'ils sont un peu tard, c'est mon opinion, là. Mais ils pensent d'ailleurs, dans le but de renforcer la famille, et ça c'était en 2010, hein, ça a été fait dans un article, le journal qui parlait de ça, le Journal of Marriage and the Family. Et ils pensent, voici ce qu'ils pensent, lancer l'idée de récompense financière des unions qui durent. Quand est-ce viendrait la récompense? Intéressant. C'est ce qu'on annonce, a annoncé le président Sébastien Pinera, qui promet pour l'instant une prime aux couples célébrant leur 50e année de mariage. Moi, j'aurais été plutôt un peu plus de bonheur là, quand même, là, je veux dire, ça l'élimine une gang, là, mais où il y en a une gang qui meurt avant ça aussi, tu sais, ça donne pas une chance, de récompense, là. Mais n'est-ce pas que les Chiliens sont avant-gardistes quand même, hein? La récompense de mariage qui dure. Et le mot qui fait peur, bien sûr, c'est le mot « engagement ». Engagement. Ah ben, on fait tout pour pas être trop engagé en société québécoise, hein? Pour pas rentrer le bras dans le tordeur. Puis là, on continue à se faire tirer, puis tirer. Ah, là, une fois rentré, là, t'es faite, tu sais, là. Et les gens se sentent comme ça avec le mariage. Et donc, ils ont peur de l'engagement. Définition de l'engagement, action de se lier par une promesse. Aussi simple que ça. Action de se lier par une promesse. Mais ça veut dire du risque. Plusieurs disent que c'est un préjugé envers les conjoints de fait, mais il semble clair que ce n'est pas le cas. Les gens ont peur de l'engagement et du partage. Parce que plusieurs disent, ah, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Là. Elle a eu des débats assez intéressants avec celle qui est critique au cinéma, qui était critique, c'est quoi son nom là? Ah ben, de la vivacité, pour le moins, là. Petrovski, c'est ça, exactement. Ils sont intéressants, ces deux-là, ensemble. Oh, des vrais pis. Vous pouvez les retrouver, là, sur l'Internet, Olivia Lévy et elle, en train de s'ostiner sur le mariage. Ça vaut la peine juste de les écouter, peu importe ce qu'ils disent, là. Mais c'est intéressant. Deux passionnés. Mais à la fin de la journée, concède quand même, Mme Petrovski, certains points à Olivia Lévy sur le mariage. Ça les insulte de dire que c'est un moindre engagement. Et pourtant, pourquoi ils ne prennent pas le risque? Parce que généralement, il est perçu qu'il est plus facile de sortir de cette relation-là avec moins d'indemnité que si on était marié. Et les gens se préparent à la sortie en rentrant dans une union libre. Et pourquoi les unions libres durent moins longtemps? Et pourquoi les gens veulent des unions libres? Pour pouvoir sortir plus librement. Vous comprenez? Union libre, sortir plus librement. C'est ça l'idée, hein? Union libre. On n'a pas de papier administratif à régler après, et c'est moins compliqué, et ça déresponsabilise plus chacun à faire ce qu'il veut. C'est ça l'idée de l'union libre, disons-le. Ce n'est pas un préjugé, c'est un constat. Puis si quelqu'un est frustré, puis vous le direz, bien, Olivia Lévy l'a dit dans son livre, tu y tireras des roches à elle. C'est une Québécoise, elle a 36 ans, puis elle pense comme celle aussi. On n'est pas tout seul, les Québécois évangéliques, qui ont ces convictions-là. Il y en a plein qui ont une tête, puis qui sont capables d'évaluer ça, puis de voir que les arguments sont extrêmement logiques. Et c'est pour ça qu'elle dit une affaire de raison. Il y a quelque chose de logique là-dedans aussi, outre le fait que ça soit biblique. La difficulté se passe du « je » au « nous ». Oh là là! Là, je viens d'ouvrir une canne. J'en débouche une, là. Vous n'allez pas aimer tout ce que je vais dire, là, je vous le dis. C'est vrai. Le « je » ou « nous ». Oh là là! C'est un monde de différence, dire « je » puis « nous ». Hein? La différence même entre l'échec, souvent, et la réussite. « Je »,« nous ». Même comme Église. genoux. Pas genoux, mais je puis nous. Hein, je veux être sûr, là, au cas où, là, que j'ai mal compris. Le nous constructif, rassembleur, et malgré tout, garder mon identité. Comme le mariage, le partage est un mot qui risque de disparaître du dictionnaire. Partager les joies, les peines, etc. Ma femme, c'est ma famille, je l'ai mentionné tantôt, mais j'aimerais vous donner un exemple extrêmement tabou. Vous savez que ça me gêne toujours de parler des tabous, mais bon, je vais le faire ce matin. Les richesses. L'argent. Ça, c'est... Hein? L'argent. La sainte argent. Troisième dans les sujets d'irritation profonde chez les couples. Et il y en a un paquet qui me disent la face te croche. Oui, j'ai déjà été là. Combien sont déjà ostinés dans leur couple sur l'argent? Levez les mains. Waouh, vous êtes menteurs, là. Je vais vous le dire à matin, là. Il y a des gens qu'il faut qu'ils se confessent sur le mensonge à matin, là. Levez vos mains, ceux qui sont ostinés sur l'argent, là. Allez-y, là. Bon, ça fait du bien, hein? Bon, on est plus léger comme ça, hein? On s'ostine sur l'argent. Nous, on le fait, en tout cas. Hein, chérie, de temps en temps, hein? On parle d'argent. Puis, c'est pas toujours édifiant. Parce que l'argent, oh, c'est pas facile. Je vous donne un exemple d'un sujet très terre à terre. OK? C'est dans le plancher des vaches, là. OK? Et là, les femmes et les hommes, il y a une règle. Pas de coup de coude. OK? Pas de coup de coude. On regarde en avant, on ne crochit pas la face, aucun message subliminal, même par osmose, rien, là. OK? On écoute sagement. Ma femme a rencontré quelqu'un cette semaine. Ma femme Julie a rencontré une femme qui est de l'extérieur de l'Église et qui partageait ceci. Qu'elle travaillait depuis un arrêt de travail de 4 ans, maternité et préventif ensemble. Et ce qui la motivait de retourner sur le marché du travail, c'est la pression financière de la part de son conjoint, on va le dire, ses conjoints, et surtout des remarques aussi désobligeantes qui honorent pas la femme au foyer et tout ce qu'elle fait. Pression intérieure du couple et extérieure. Malheureusement, ces deux domaines de pression se retrouvent trop souvent. Et je lance aucun message à personne ici, là, mais dans l'Église également. Parce qu'on l'a vu chez nous. Et c'est dommage. Cela vient d'une pression sociale extérieure, du fait que ce soit pas valorisé. Et je donne un exemple simplement sur la femme qui demeure à la maison. Et que d'être à la maison, ce n'est pas aussi respectable, aussi honorable, aussi bon que la femme sur le marché du travail. Et pourtant, il y a bien des femmes sur le marché du travail qui disent « C'est pire d'être à la maison, j'aime mieux être sur le marché du travail, c'est moins... » Il y en a qui le disent exactement comme ça, des fois. Pas tous. Il y en a qui veulent retourner à la maison. Qui trouvent ça plus difficile du marché du travail, mais il y a une pression. Exemple, bien banal. Et là, je peux le dire parce que je ne pense pas à personne ici. Mais Julie et moi entendons souvent des commentaires disant « C'est sûr, toi t'en as 5. Ben, c'est sûr, c'est un travail à plein temps. Toi, c'est normal que tu sois à la maison. » Fait que donc, ceux qui en ont juste 1 ou 2, c'est pas normal. C'est pas assez de travail. C'est où le chiffre magique? C'est 3 ou c'est le 4e? Hein? C'est le premier? C'est quoi, hein? C'est assez arbitraire. C'est combien un enfant que ça en prend, tu sais, pour que ça soit une job à la maison? Pas facile comme question adressée. Et surtout pas subjectif. Finalement, plusieurs pensent que 5, là, c'est justifié de rester à la maison. Pourquoi c'est pas honorable quand t'en as 2 ou quand t'en as 3? C'est qu'elle, selon les gens, manque d'ambition. Manque d'ambition de rester à la maison. Jugement et pression injustifiés. Soyons clairs ici, je ne suis pas en croisade pour la promotion des femmes à la maison par mon discours, pas du tout. Ou la femme au travail, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire de un de bien ou de mal de l'autre. Mais bien le respect des choix et de la conviction de chacun, de chaque couple. Et que ce choix ne soit pas sous des pressions matrimoniales ou sociales. Et encore moins dans nos couples et dans l'Église. qui serait fort triste qu'on n'arrive pas à être un peu mieux que notre entourage. Disons-le bien franchement, plusieurs de ces femmes en ont bien assez aussi de vivre la pression avec leur mari, je dirais, parce que c'est là le plus gros cas en général, surtout qu'ils laissent des commentaires plates comme « mon argent, ma paye ». Où est le partage et l'amour et la valorisation des autres, surtout de la femme, dans un tel discours? Ce genre de commentaires est partout, même dans les familles chrétiennes, et je trouve cela destructeur, symptomatique d'une influence douce mais sournoise du monde et une manifestation très claire d'égocentrisme, il faut le dire, et non de partage. C'est notre maison, c'est notre portefeuille, notre argent, nos investissements. Qu'elle travaille à la maison ou sur le marché du travail extérieur, ce discours est mal et faux quand on est marié, car le mariage est une décision de partage. Aujourd'hui, on se marie ou on vit en concubinage au Québec, tout comme plusieurs couples dans l'Église, et mon but, ce n'est pas attaquer personne, mais juste soulever un problème qui est là. Et chacun paye sa moitié. Il y en a un qui fait 50 000, puis évidemment, c'est la femme qui fait 25. Paye ta moitié. Ça s'appelle de l'abus, on va le dire ici. C'est de l'abus. Parce que moi, je mérite mon salaire plus qu'elle. C'est ça qu'on lance. Puis là, moi, j'ai plus d'argent pour loisir parce qu'on partage moitié-moitié. Tu payes moitié-moitié, chacun son compte. On paye la moitié du chauffage, la moitié ça. Ou toi, tu t'occupes de telle-telle facture, moi, je m'occupe de telle-telle facture. C'est moitié-moitié. Puis là, lui, il a plein d'argent pour ses passe-temps. Puis elle est serrée, elle se sacrifie dans son argent pour ses enfants. Ça, là, je vois ça régulièrement. Et c'est triste. Ce n'est pas l'égalité dans le couple. C'est égocentrique, c'est destructeur. Ça ne représente pas les valeurs du mariage québécois ni biblique. Et c'est très malheureux. On commence déjà avec un compte séparé, comme ça, si on a besoin de se séparer. Je me suis marié, j'ai ouvert un compte conjoint. La madame m'a averti en 98. « Ouais, mais là, si jamais vous vous séparez. » J'ai dit « Madame, je me marie pour rester avec elle, pas pour me séparer. Je ne commencerai pas avec mon compte, là. » Mais c'est comme ça. Ça me révolte. Et c'est injuste pour les enfants, pour celui ou celle qui gagne moins, qui est généralement la femme, et qui parfois a un sens du devoir un peu plus aigu. Souvent. Pas tout le temps. Et qui sacrifie le plus? Ça va être la femme. Puis ce qu'on lance comme homme, un message dans ce sens-là, c'est moi. Pas nous. Honte à moi de faire cela. Et des femmes retournent sur le marché du travail parce qu'ils sont écœurées, en bon québécois, de ces foutus commentaires-là. Parce que ça fait mal, ça blesse, ça dévalorise. Moi, je le mérite, pas toi. Il n'y a pas d'unité là-dedans. Il y a du mépris. Il n'y a pas de partage là-dedans. Pas du tout. Et ça, on voit ça même dans les familles chrétiennes. Et c'est destructeur. Je le vois continuellement, les résultats de ça. Et c'est injuste. C'est notre argent. C'est notre réussite. Et oui, ma femme peut avoir un mot sur mon horaire de travail des fois. Hein? C'est pas de tes affaires. Non, c'est mon travail, c'est notre gagne-pain à nous. Hein? On peut se consulter. On peut se considérer. On est une équipe. On est des coéquipiers. Dieu nous a pris de la côte, la femme de la côte, pour qu'on soit des coéquipiers, c'est-à-dire à la même hauteur, à la même place. Puis qu'on partage, qu'on soit ensemble, qu'on gagne ensemble, qu'on réussisse ensemble. Et ça, ce sont des choses qui font le contraire. Mais ce n'est pas populaire de le dire, et je suis certain qu'il y en a peut-être qui seront offusqués de ce que je dis ce matin. Mais je le crois sincèrement, et j'assume ce que je dis. Et je crois que ça reflète la pensée biblique. Du partage, du sacrifice. La peur de l'engagement, particulièrement de la gent masculine, mais aussi des femmes. Il y a même de la crainte de l'emménagement, mais on ne parle même pas du mariage, juste d'emménager ensemble. C'est la mode des solos. Chacun dans son appart, ils se voient quand ils veulent, pas trop d'engagement, puis ils ont chacun un peu quand ils veulent, puis ils peuvent vivre une vie autonome. Pas de compte à rendre à personne. Et voici comment est défini l'engagement, je trouve ça intéressant. C'est de construire dans une époque déconstruite. Bâtir dans une société qui n'a plus de repères. Ce n'est pas faire un party qui va coûter la peau des fesses, le mariage, l'engagement. C'est se regarder dans le blanc des yeux, promettre de s'aimer et tout mettre en œuvre pour que notre mariage réussisse. C'est beau ça. Oui, amen à ces paroles de Mme Lévy. C'est bien dit. Tout mettre en œuvre. Évidemment, je reviens à la petite notion que j'ai dit tantôt. Aucun jugement sur celles qui ont et ceux qui ont pris des efforts pour mettre en œuvre et que ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Aucun jugement. Et si vous avez demandé quelque chose à Dieu, pardon, que causer un échec, Dieu vous a pardonné. Et la première fois que vous l'avez demandé à part ça, pas la dixième, c'était déjà là le premier coup. Et je veux que vous le sachiez ce matin. Le Seigneur n'est pas lui à garder rancune de tous ceux qui ont eu des échecs matrimoniaux. Le Seigneur pardonne à celui qui demande pardon. Restaure. Et il y a une vie avec Dieu après un échec matrimonial. Et ceci n'est pas pour apporter une quelconque critique à cet égard-là. Madame Lucie Vincent, pas celle qu'on connaît, neurologiste, chercheur au Centre national de recherche scientifique en France et auteur du livre « Petits arrangements avec l'amour », estime que le mariage n'est pas un embourgeoisement du couple, mais plutôt un besoin humain universel de s'établir publiquement, de montrer son engagement envers l'autre. Les époux engagés se montrent même plus accommodants l'un envers l'autre, parce qu'il y a un plus haut niveau d'engagement. Elle écrit également qu'ils communiquent mieux, gèrent mieux les conflits et sont plus satisfaits de leur vie, d'une manière générale. Ils mettent leur bonheur sur le compte de leur engagement réciproque. L'engagement serait donc lié au bonheur, un facteur, évidemment. Parce que les gens font des recherches sur les facteurs qui contribuent au bonheur de l'être humain, à la satisfaction. Et c'est sa conclusion assez intéressante. L'engagement, la promesse d'aimer, de prendre soin pour le meilleur et pour le pire est important aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh, mais l'engagement, là, watch out, c'est de faire des enfants ensemble. Ça, c'est l'engagement. Bien plus que le mariage. Faire des enfants ensemble. Là, tu t'engages, là. Intéressant. Je me demandais ce qu'elle avait à dire là-dessus. Olivia, aujourd'hui les gens disent cela. Ne confondez pas tout. Si avoir des enfants était vraiment le gage de réussite de votre union, il n'y en aurait pas autant de séparation 2, 3, 4 ans après leur naissance. C'est ça l'engagement qui remplace le mariage et qui est plus important que tout? Je pose la question. Un couple marié sans enfant peut se séparer et ses ex-partenaires ne se reverront plus pour jamais pour la vie. Des enfants, c'est pour la vie, me disent les anti-mariages. Et même séparés, la mère et le père et l'enfant sont liés à jamais. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire le contraire. Le mariage relève de l'intime. C'est une déclaration qu'on fait à son amoureux, la personne avec laquelle on désire passer le reste de notre vie. C'est une union entre deux adultes consentants et cette promesse mutuelle se fait avec ou sans enfant. Elle ne dépend pas de ce facteur. Les enfants, vos enfants, vous ne voulez pas les laisser là. Vous n'avez pas envie de vous en séparer. Bon, ça arrive parfois, là, mais c'est un autre sujet, là. Pourquoi? Parce qu'ils vous obéissent peut-être, que vous ne voulez jamais vous en débarrasser? C'est-tu ça le facteur gagnant? Non, pas toujours. Vous vous engagez envers eux et c'est pour la vie. Vous les aimez et vous en avez la responsabilité. Si vous vous disputez avec votre enfant, vous allez vite le rassurer et faire tout pour que vous puissiez vous réconcilier. ça va de soi. Mais avec votre conjoint, qu'en est-il de cet engagement? L'engagement envers les enfants ne veut pas dire un plus grand engagement que celui pour la vie. Mais il y a des engagements faits envers les enfants intéressants et exemplaires pour le couple. D'y travailler. On n'abandonne pas l'enfant quand ça ne va pas bien. Hein? Quand il désobéit, quand il se rebelle, quand il prend le champ, qu'il brise la voiture, peu importe. Mais on se le permet dans la relation d'engagement matrimonial. Le mariage est symbole de stabilité. Dernier point que je veux soulever. De stabilité émotionnelle et matérielle. Selon une étude réalisée par la sociologue Hélène Belot, la majorité des couples vivant en union libre estiment que le mariage est purement symbolique et que c'est un bout de papier dont on n'a pas vraiment de besoin. Mais selon l'enquête, pour les couples mariés, eux autres, l'engagement s'inscrit dans le cadre institutionnel. Ils se sont mariés parce que pour eux, le mariage représente un engagement supplémentaire. Et pourtant, beaucoup de gens en union libre vont le reconnaître, ce fait. Supplémentaire. C'est une question de valeur. J'aimerais vous lire à ce propos quelques paroles qu'elle dit. Au Canada, la durée moyenne de la vie d'un couple est approximativement de 10 ans. Il y en a que ça fait un an, il y en a que ça fait 50, mais approximativement. Au moins, ces couples ont le mérite d'avoir essayé. Ils y ont cru, mais ils n'ont pas réussi. Ça arrive. C'est ce que je réponds en ajoutant, chers amis, pour si l'on peut compter les divorces, c'est parce qu'ils ont enregistré. Quand on sépare des conjoints de fait, c'est plus difficile de chiffrer car rien n'est officiel à ce niveau-là. Mais une chose est reconnue clairement, on sait qu'ils se séparent davantage, même si on a la difficulté à prouver avec des chiffres ces faits à l'appui. Il y a une plus grande instabilité factuelle dans les unions libres que dans l'engagement qui est pris dans un mariage. On connaît le pourcentage de divorces, 50%, soit un mariage sur deux. Ce serait même deux sur trois chez les couples en concubinage. Ces chiffres ne sont pas officiels. C'est une estimation. Aux États-Unis, il y aurait moins de 10% des couples en cohabitation qui passent plus de 5 ans ensemble. Et remarquez autour de vous, généralement, c'est le cas. On peut faire la déduction suivante. Les gens mariés restent ensemble plus longtemps car ils prennent leur union plus au sérieux. J'ose le dire. Selon la sociologue Anne-Marie Ambert, professeure au département de sociologie de l'Université de York à Toronto, les unions libres sont plus instables que les mariages. C'est une recherchiste qui nous dit ça. Pas juste n'importe quelle affirmation de n'importe qui ici, là. Ils sont plus précaires parce que peu d'entre elles aboutissent à un mariage. Donc, je termine avec cette citation. Par rapport à l'union libre, le mariage tend à durer plus longtemps. Il représente un niveau d'engagement plus élevé, particulièrement de la part des hommes, en plus d'être une institution plus solide sur le plan affectif, etc., etc. Et il y aurait bien des choses à dire à ce niveau-là. L'autre chose importante à soulever, c'est l'aspect que, parce qu'ils sont plus stables, parce qu'ils sont moins stables, il y a plus de monoparentalité aujourd'hui. Et chose intéressante, dans cette réalité-là de beaucoup plus de monoparentalité, une grande majorité d'entre elles sont sous le seuil de la pauvreté parce qu'à deux, on est plus riche que seul. Et les femmes gagnent moins que les hommes. Et qui sont les premiers aux premières loges de la pauvreté? Ce sont nos femmes monoparentales. Et qu'est-ce qui les a guidées vers cette situation-là? Pour plusieurs, c'est l'union libre. Qui protège encore moins légalement cet engagement-là avec des enfants mélangés ou tout ça. Il y a moins de protection. Et on prend le risque de faire des enfants, et après ça, on se sépare. Et qui paye en général plus que l'autre? Ce sont les femmes monoparentales, dont une grande partie demeure sous le seuil de la pauvreté pour élever les enfants, pour toutes sortes de raisons. Et le salaire qui est moindre que les hommes en général. C'est triste. Voilà le résultat de nos croyances d'union libre. Qu'est-ce qu'elles apportent vraiment de bon à la société? Plus de pauvreté. C'est un constat. Plus d'enfants mal aimés, divisés en deux foyers. Plus de foyers brisés. On parle, en 2006, de 350 000 plus familles monoparentales. Trois familles sur dix. On parle de 27 %. Et 78 % de ces familles sont dirigées par des femmes. Ce n'est pas glorieux pour nous, les hommes, face à notre responsabilité. Et c'est triste, parce que c'est les enfants, les innocents qui payent. Nous, on est des adultes. Nous, on est des adultes. Mais c'est les enfants qui portent au Québec le poids moral de cette séparation-là et qui souffrent, qui ont des comportements de toutes sortes à l'école, pour plusieurs dû à des stress à la maison, de porter le poids que peut-être leurs parents sont séparés. C'est difficile pour ces enfants. Et je dis cela pas pour ajouter aucune culpabilité sur personne ici, mais pour avoir à cœur les enfants. Pour avoir un cœur pour ces enfants qui souffrent dans nos choix d'adultes. Nous, on est des adultes. Eux sont des enfants. Quelle tristesse. Pourquoi le mariage est si important et évangélique? Voici la raison. Car c'est lié à la famille, la stabilité, le noyau, cellule familiale, fondement de la société. Fondement de la société pour la transmission des valeurs, des coutumes, des us, de la religion ou de la foi. Le mariage, le foyer, est cet endroit de formation du caractère humain. C'est cet endroit de formation de nos valeurs, de qui nous sommes, de ce que nous croyons, d'être responsable en société. Dieu a choisi le noyau familial pour être la première ligne de la transmission de la foi. Et je le répète, Dieu a choisi le noyau familial pour être la première ligne de transmission de la foi. Si on l'attaque, c'est une attaque en règle à l'Évangile. Vous comprenez? C'est une attaque à l'Évangile même. Car l'amour manifesté dans le couple manifeste aussi l'amour de Dieu devant les enfants et la société qui l'entoure. Dieu se présente au travers la cellule familiale. Dieu a choisi d'utiliser le véhicule de la famille pour se présenter. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Pour se présenter en tant que Dieu, la personne de Dieu. Et c'est la perspective chrétienne du mariage. Pourquoi? L'amour de papa envers maman, ou vice-versa, c'est l'amour de Dieu le Père envers l'Église et envers l'ensemble des croyants. L'amour de papa envers ses enfants, c'est l'amour du Créateur, du Père céleste, qui prend soin de ses enfants. Le respect et la soumission volontaire, c'est la relation entre le Fils Jésus-Christ et le Père céleste qui nous a acquis le salut éternel, le pardon des péchés. C'est cette soumission-là, exemplifiée par Jésus-Christ, qui a mis le salut pour lequel on chérit notre existence, parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Tout à coup, on a une valeur. On est recyclable par Jésus-Christ. L'amour des enfants entre eux, c'est l'image de cet amour fraternel entre la famille de Dieu, entre frères et sœurs. Travailler à notre couple, c'est de travailler, de donner le goût de la foi à nos enfants. Travailler à notre couple, c'est de travailler à partager la foi à notre entourage. Travailler à notre couple, c'est de travailler à laisser Jésus-Christ vivre quotidiennement en moi, la vraie vie chrétienne. Voulez-vous travailler? Peu importe le prix à votre couple jusqu'au bout, et ne pas donner accès au mal dans votre vie. À la fin de la journée, comme chrétiens, nous avons des choses de plus pour nous aider, pour aller plus loin. Que peut-être beaucoup de gens qui nous entourent. La force de Dieu au travers la personne du Saint-Esprit, prête à nous aider, à nous donner la force lorsqu'on est à bout, pour travailler, pour persévérer, pour pardonner. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne, qui humainement nous dépasse trop souvent. Elle est accessible. Parce qu'il a fait une promesse qui pour nous est difficile à accepter parfois, mais que rien nous arrive qu'il ait donné un moyen de passer au travers. Et parfois c'est dur à croire, c'est vrai, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a ce qu'il faut pour passer au travers, n'est-ce pas? On doute, mais il nous a promis cela, c'est une promesse. Qu'il y a des choses accessibles, même si j'ai de la misère à le voir. On a tous passé par l'un jour ou l'autre. Des moments où on doute de cela. Mais c'est possible. Je ne sais juste pas comment. Mais il dit qu'il va donner la force. Il faut que j'aille vers lui. Puis ce n'est pas facile d'aller vers lui. Car on voudrait s'isoler tout seul. Puis qu'on est à bout, qu'on est fatigué. Épuisé émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement. Deuxièmement, de plus, nous avons une perspective du mariage dans ses implications théologiques sur la transmission de la foi et de l'image de la relation dans la personne de Dieu, qui est là pour nous aider à comprendre son importance. Une perspective théologique de la personne de Dieu qui utilise ce véhicule qu'est la famille. Et finalement, nous savons aussi que cela a une implication directe avec notre croissance chrétienne et notre relation avec Dieu. Parce que d'y travailler nous motive et nous amène à vivre de la croissance. S'il y a une chose que j'ai compris du mariage, c'est que ça m'a poussé à de la croissance chrétienne dans ma vie. À Dieu travailler mon caractère de mariage comme il ne l'aurait pas travaillé, je crois, si j'aurais resté séparé. J'ai été confronté à devoir changer ou briser, faire mal à ma femme. À risquer de perdre ma femme ou de changer avec la grâce de Dieu. Et je choisis aujourd'hui de changer avec la grâce de Dieu. Je veux changer Dieu pour être un chrétien plus proche de Dieu, plus honorable à Dieu, pour le bien de mon foyer. J'y crois. J'y crois. Pour la transmission de la foi à mes enfants, pour la transmission de la foi à ceux qui m'entourent, pour vivre la vraie vie chrétienne, travailler sur mon caractère chrétien, dans le mariage. Je le veux. Est-ce que vous le voulez? Prions ensemble. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier. M'approcher de toi, Seigneur, humblement, sachant que je ne suis pas et loin de là, le couple modèle. Et je ne suis pas ici ce matin parce que je maîtrise le mariage. Je suis un apprenti. Je lutte comme chacun de ceux et celles qui écoutent ce matin. C'est un défi continuel, Seigneur, de travailler à s'approcher de toi pour avoir la force de changer pour toi et par amour pour l'autre. Seigneur, donne-nous la persévérance ce matin. Je te le demande, je te le supplie, Seigneur, donne-nous de la persévérance, de l'audace. De la force, nous en avons besoin. Seigneur, je te prie pour de la force, particulièrement pour ceux qui vivent un mariage présentement en difficulté et qui bat particulièrement de l'aile. Pour celui ou celle qui se sent seul à y travailler et qui est fatigué, qui se sent tout seul et abandonné, qui lutte à s'endormir dans l'angoisse de ce qui va arriver avec les enfants. Oh Seigneur, fortifie cette femme. Cet homme, rencontre-le, rencontre-la, parce que c'est pas facile. Oh Seigneur, je te prie pour la transmission de la foi à nos enfants. La chose la plus précieuse, au-delà de notre travail, au-delà des accomplissements, Seigneur, la transmission de la foi à nos enfants, de les inspirer par notre désir humble, mais sincère de marcher pour Jésus-Christ. Ô Seigneur, que notre foi inspire nos enfants, leur donne le goût de vivre une vie chrétienne authentique. Sous nos plus grands observateurs, les plus proches, nos enfants. Ô Seigneur, donne-nous la force d'être des modèles dans notre imperfection, de persévérance, d'humilité, sachant demander pardon, de changement, sachant montrer la transformation de Dieu dans nos vies. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Fais de cette Église un lieu qui valorise, qui encourage, qui fortifie la vie de couple. Et qu'on puisse, Seigneur, pas être au-dessus de la société. Oh, nous ne le sommes pas. Mais qu'on puisse, Seigneur, te demander de l'aide et de travailler à être des exemples. Parce que Christ est en nous. Et nous voulons inspirer d'autres à te suivre. Ce n'est pas le mariage, en fait, de la journée qui est comme la si grande enjeu, mais la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Fais de nous, Seigneur, des disciples de Jésus, au quotidien, dans toutes les sphères de notre vie chrétienne. Et on te le demande humblement, désespérément. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen.